prendre la parole. Isabelle.
Bolli a mentionné à plusieurs reprises dans son exposé et dans l'étude la question des droits économiques, sociaux et culturels. Et il y a quelques mois, ici à Genève, nous avions un panel dans le cadre du groupe de travail sur le droit au développement, sur le lien entre, d'une part, le droit de développement, et donc comme un droit individuel et collectif, et ses droits économiques et sociaux. Et je voudrais, en fait, moi, pas tellement l'aborder par le volet juridique, ce que tu as fait, et je pense que c'est très bien que le fondement juridique soit mis en évidence, mais plutôt l'évaluer au travers de la complémentarité entre ces deux dispositifs. En fait, je crois profondément que, à la fois le droit au développement comme droit individuel et collectif et les droits économiques, sociaux et culturels sont intimement enchâssés l'un dans l'autre, et que on peut les lire au travers de la capacité des gouvernements et des outils qu'ils ont à leur disposition pour essayer de faire avancer les deux, le droit au développement comme droit individuel et collectif et les droits économiques et sociaux. Tous les droits qui sont protégés par la Convention sur les droits économiques et sociaux et culturels sont nécessaires pour réaliser le droit au développement, que ce soit le droit au travail, le droit à la santé, à l'éducation, à la cité, à l'eau, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui constituent ou qui aident à réaliser le droit au développement. Mais pour protéger ces droits spécifiques, que je viens de citer quelques-uns d'entre eux, la Convention sur les droits économiques et sociaux dispose de certains principes généraux, la non-discrimination, la réalisation progressive, mais aussi l'utilisation maximale des ressources pour aller au-delà de l'accès minimum, mais aller le plus loin possible, par exemple. Et donc la question est aussi de savoir comment les gouvernements peuvent mobiliser le maximum de ressources pour aller au-delà de ce minimum. Et donc en ce sens, le droit au développement, à mon sens, comme droit individuel et collectif, complète parfaitement la Convention sur les droits économiques et sociaux et culturels via l'obligation de coopération, qui est une obligation qui est, elle, requise par le droit au développement. La Convention sur les droits économiques, sociaux et culturels identifie déjà la coopération internationale comme un paramètre en analysant les niveaux pertinents de l'aide publique au développement. C'est le cas d'ailleurs de certaines recommandations qui ont été faites à certains pays au sein du Conseil des droits de l'homme, à la Suède, à la France, à l'Italie, lors de l'examen de la mise en œuvre de cette Convention sur les droits économiques, sociaux et culturels. Mais le droit au développement met en plus en évidence des principes normatifs qui concernent la coopération internationale, à savoir le fait que le développement est un droit inaliénable des individus et populations, et on peut discuter how we translate people, ça c'est évidemment la discussion la plus sensible, mais aussi que les titulaires de droits doivent pouvoir participer, contribuer, bénéficier au développement social, économique, culturel et politique, qu'ils doivent pouvoir déterminer leurs priorités, que le résultat de cette coopération et le processus de coopération lui-même doivent être alignés avec le droit au développement et les autres droits humains, et enfin que les États ont à la fois le droit et l'obligation d'identifier leurs propres priorités et objectifs nationaux. Et donc, pour que ces droits et principes puissent être appliqués, je voudrais insister sur un aspect dont on parle généralement pas beaucoup, qui est la mise en œuvre dans un deuxième temps, à la fois du droit au développement le jour où il deviendra un droit légalement obligatoire, si c'est le cas, et même s'il ne devenait pas un droit obligatoire, pour mettre en œuvre à la fois les droits économiques et sociaux et le droit au développement, les États doivent aussi traduire tout ça en textes législatifs nationaux. C'est tout un enjeu que les constitutions ou que les lois nationales traduisent la Convention sur les droits économiques et sociaux ou sur le droit au développement. Après avoir adopté des textes législatifs nationaux, on doit adopter des policies, des programmes politiques, des programmes d'action. Et puis, on doit ensuite mettre ça en œuvre avec des potentielles sanctions politiques ou judiciaires si ces droits ne sont pas appliqués. Et cette partie-là, qui est la partie mise en œuvre à la fois de la Convention sur les droits économiques et sociaux et du droit au développement, qu'il devienne un outil légalement contraignant ou qu'il soit simplement quelque chose qu'on essaie de mobiliser, ça implique aussi que soit mis en place une sorte d'état de droit avec un Parlement qui discute de ça, avec un Conseil d'État, avec une validité juridique des documents qui sont pris au niveau national. Et ce travail-là est aussi quelque chose auquel je pense que nous devons prêter attention, pas seulement sur les aspects, la discussion juridique entre droits individuels et droits collectifs, mais la mise en œuvre de ces droits via les instruments dont dispose un État pour les mettre en œuvre, en contrôler l'application et en sanctionner la violation, si c'est le cas. Voilà ce que je voulais amener à la discussion. Merci.